Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Nous poursuivons notre regard sur la Méditerranée dont le paysage géopolitique n'a de cesse de se redessiner avec en Méditerranée orientale une concentration de forces russes, turques, israéliennes, occidentales, un espace de forte compétition. Pour les États-Unis, le bassin méditerranéen est à nouveau un espace stratégique important malgré la disparition des enjeux pétroliers venant du Golfe, la rivalité stratégique avec la Russie, l'endiguement de l'islam radical, quoique maintenant cela ne semble plus être la priorité des États-Unis, et le contrôle des flux économiques européens et asiatiques qui justifie une implication forte, en même temps qu'amoindrie à en juger par les décisions récentes des États-Unis à propos de la Syrie. La Chine, pour sa part, met en œuvre une politique ambitieuse avec des actions combinant l'économie avec les nouvelles routes de la soie et le militaire, avec déploiement naval depuis la base de Djibouti. Avec les pays de la rive nord de la Méditerranée, Pékin joue sur le bilatéral, particulièrement avec la Grèce, l'Espagne et le Portugal au risque d'affaiblir l'Union européenne. Sous l'effet de leur bascule stratégique vers la zone Indo-Pacifique, les États-Unis sont moins présents sur mer en Méditerranée. Ce n'est pas le cas de la Chine, qui a des navires de guerre qui commencent à y entrer discrètement. Qui tient la mer en Méditerranée? Que sait-on de l'importance stratégique de cette mer pour Pékin? Et en quoi la Méditerranée est-elle utile à la Chine? Nos invités, Marianne Perrondoise, chercheure Asie du Nord à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, directrice du programme Sécurité Maritime Internationale et co-auteur de Indo-Pacifique, le dernier numéro de la revue Diplomatie. L'amiral Pascal Hausseur, directeur général de la Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques, think tank basé à Toulon, et fondateur de l'Observatoire stratégique des mondes méditerranéens avec un consortium d'universités, et Pierre Razou, historien spécialisé dans les conflits contemporains et les relations internationales, directeur de recherche à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Les États-Unis ont fortement investi en Méditerranée orientale, les choses étant liées. Comment analyser le retrait du nord de la Syrie, la confirmation d'une baisse de l'effort américain pour des raisons de priorité qui se situeraient ailleurs? Le contexte est pourtant là, retour de la Russie dans la région, on l'a évoqué hier dans l'émission première partie sur la Méditerranée, et activisme chinois. Autant de raisons sans doute qui devraient inciter Washington à ne pas se désengager. Quelles options s'offrent aujourd'hui aux États-Unis en Méditerranée? Pierre Razou.
Très rapidement, c'est une erreur, je pense, de penser, comme l'idée que véhiculent certains médias, que les États-Unis se retirent du Moyen-Orient. Les États-Unis se restructurent et restructurent leurs forces sur la zone Méditerranée, Moyen-Orient, Océan Indien. Ce qui veut dire qu'ils veulent toujours jouer, simplement, au lieu d'être présents et d'éparpiller leurs forces, ils se regroupent pour être capables de peser durablement et comment dire, de manière décisive, le jour où leurs intérêts seront menacés. Et leurs intérêts, c'est clairement la protection de l'axe maritime, Atlantique, Méditerranée, Mer Rouge, Océan Indien. Donc en fait, ils sont en train de se repositionner. Donc ils quittent le Levant en se disant, finalement, le Levant, c'est la zone, pour faire simple, des Russes et des Iraniens, c'est pas la nôtre. Nous, notre zone, c'est la Méditerranée orientale, c'est la mer Rouge, c'est l'océan Indien. Donc, par exemple, en ce moment, ils se recentrent sur Chypre. Ils sont extrêmement, après avoir laissé tomber Chypre, on va dire, une petite dizaine d'années, on les revoit extrêmement actifs sur la zone chypriote. Ils reviennent, ils reprennent pied en Égypte. Ils sont en train d'essayer de réaffirmer leur présence maritime en mer Rouge, notamment face au Japon, face à la Chine, face à l'Iran, qui rentrent en mer Rouge. Donc, ils sont extrêmement présents.
Pascal Hausseur.
Oui, ils restent présents et ils resteront présents pour protéger les voies de communication maritimes qui sont vitales pour eux. Ils resteront présents pour la défense antimissile balistique qui est, il faut toute la détection et l'engagement des missiles qui pourraient être tirés de Russie notamment se font en Europe et en Europe du Sud. Donc on a une permanence de frégates antiaériennes qui sont en Espagne à Rota, qui sont dédiés à cette mission, et ils resteront présents à cause d'Israël. Donc il y a des enjeux qui font que les Américains resteront présents dans cette zone, mais il y a quand même aussi la volonté d'être moins exposés. C'est un peu le contre-coup, bien sûr, de l'Irak, mais on voit bien, et ça c'est une tendance quand même assez lourde, qu'on a senti déjà avec Obama, avec le leading from behind, avec la ligne rouge syrienne qui n'a pas été respectée, et qu'on voit également avec Trump d'une autre façon, bien sûr, mais il y a quand même un vrai consensus américain pour être moins exposé, tuer moins de soldats américains et rester un peu plus en retrait, prêt à intervenir, et là je rejoins tout à fait ce que dit Pierre, prêt à intervenir si véritablement les enjeux stratégiques sont en jeu.
Alors, volonté de la part des États-Unis d'être moins exposés, mais pas pour autant désengagés dans la région, Marianne Perrandoise, il va sans dire aussi que c'est une réaction, entre autres choses, mais sûrement le facteur est important, une réaction à l'émergence et à la montée en puissance de la Chine en Méditerranée.
Oui, absolument. Il y a cet acteur chinois qu'on présente volontiers sous un aspect économique. C'est vrai que c'est une priorité pour la Chine, économique et marchande. Mais ces prises d'action, ces prises économiques et ces investissements chinois, notamment dans les infrastructures portuaires du pourtour de la Méditerranée, accompagnent également une visibilité de la marine de guerre chinoise. Dès lors que celle-ci a assis sa présence dans l'océan Indien, eh bien, vous avez une expansion assez naturelle qui la pousse à franchir le canal de Suez et à montrer le pavillon en Méditerranée. Il y a une cohérence stratégique dans tout cela. Il y a ce schéma de déploiement et d'accompagnement de la route maritime de la soie et il y a effectivement une convergence assez ambiguë mais réelle avec des intérêts russes et chacun s'appuyant sur l'autre. On a désormais pris l'habitude de voir ce couple naval russo-chinois opérant avec une certaine intelligence stratégique en Méditerranée, ce qui effectivement dérange, suscite des interrogations et une certaine forme d'anxiété, on va dire, chez les puissances traditionnellement installées, qui se sentent assez menacées.
Alors ça, c'est un peu la surprise de l'émission que j'avais repérée en la préparant, c'est le rôle de la Russie dans l'ancrage chinois en Méditerranée, Marianne.
Oui, parce que au fond, la Chine n'a pas de légitimité évidente en Méditerranée. Elle a des intérêts économiques. Elle est quand même présente depuis assez longtemps à Alger. Effectivement, ses ressources énergétiques sont une priorité pour la Chine. On comprend bien qu'elle a su engager des liens avec les pays du Maghreb. Elle a aussi une politique d'influence diplomatique et culturelle très forte du côté du Maroc et de la Tunisie. Mais elle a aussi des intérêts de long terme en tant que puissance marchande qui est d'asseoir sa présence et l'accès. On parlait de la défense des lignes de communication maritime qui sont une priorité américaine. Bien entendu, c'est une priorité qui s'impose de plus en plus pour la Chine. Dès lors qu'elle a stabilisé sa présence dans l'océan Indien autour de la base de Djibouti, qu'elle s'est installée sur le pourtour de l'Asie du Sud, elle remonte effectivement en direction de la Méditerranée. Et pour cela, elle a besoin quand même d'asseoir effectivement une forme de stabilité économique, mais surtout stratégique. Et le compère russe est tout à fait heureux de s'appuyer également, lui, sur cette présence chinoise.
Alors, on évoquait dans l'émission d'hier la place de la Russie, Pascal Hausser et Pierre Razou, en Méditerranée, avec ce point d'ancrage à Tartous, port de Syrie. Est-ce qu'on peut imaginer, alors peut-être la question revient à Marianne Perrandoise, avoir voir la Chine développer aussi des intérêts à Tartous. En tout cas, pour commencer, peut-être Pascal Hausser, l'appui de la Chine sur la marine russe, c'est quelque chose qui peut durer.
Là, on est vraiment dans la géopolitique, j'allais dire presque pure. La coopération entre la marine chinoise et la marine russe, c'est vraiment un acte politique avant tout. C'est-à-dire que elle illustre la volonté de ces deux puissances de coopérer et de s'imposer comme une alternative à la puissance américaine. On est vraiment dans le jeu à trois global et les Russes ont des intérêts aujourd'hui à s'allier avec les Chinois et la réciproque est vraie. Et donc le perdant dans ce jeu à trois aujourd'hui, c'est les États-Unis et les Européens un peu derrière qui essayent de trouver leur place mais avec beaucoup de difficultés. Donc militairement, il n'y a pas de raison de que ces deux marines deviennent créer une alliance militaire. Ça n'a pas de sens militaire en soi. En revanche, c'est une application très concrète d'une volonté politique stratégique de très long terme. En tout cas, pour les Chinois, c'est clairement une stratégie de très long terme. Et c'est ce qui différencie aussi les politiques de ces trois pays. C'est que les Chinois et d'une certaine façon les Russes également, ont la capacité d'avoir des vraies politiques sur plusieurs décennies, ce qui est beaucoup plus compliqué pour les pays occidentaux et pour les États-Unis.
Alors, on a évoqué dans l'émission d'hier le rôle aussi très important de la Turquie. Donc finalement, c'est un jeu, enfin en tout cas, de ce qu'on, si on devait analyser, prendre le maximum de hauteur, c'est avec les Russes qu'aujourd'hui les alliances se font en Méditerranée. On a abordé les questions avec la Turquie, alliance avec la Turquie. À l'instant, les alliances avec la Chine, Pierre Razou, c'est vraiment...
Moi, je nuancerais peut-être un petit peu le propos. Je pense que, fondamentalement, pour rester sur la relation entre Pékin et Moscou, la Chine a tout intérêt à s'appuyer sur la Russie et sur la marine russe, par exemple en Méditerranée, d'autant plus qu'elle se dit « qu'est-ce qui va se passer en Russie après Poutine ?» Et elle se dit « est-ce que moi, grande puissance mondiale Chine, je ne vais pas être dans une situation où je vais pouvoir finalement vassaliser avec mon soft power économique, politique, etc., vassaliser la Russie. » Donc en fait, je pense qu'aujourd'hui, les Chinois qui ont, comme le disait très bien Pascal Hausser, une vision à 30 ou 40 ans, se disent après tout, laissons les Russes faire de la mousse, c'est le cas de le dire, en Méditerranée, pendant une dizaine d'années encore. Et de toute façon, en s'appuyant sur eux, nous, on récupérera la mise dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc c'est très rationnel.
Alors, Marianne, pardon.
Je voudrais peut-être ajouter quelque chose, c'est qu'effectivement, on est sur le théâtre méditerranéen, mais cette alliance, qui est avant tout une opportunité stratégique, elle joue aussi, en mer de Chine du Sud, c'est-à-dire que chacun soutient les intérêts de l'autre, et donc ces exercices conjoints qui intriguent et qui inquiètent et qui dérangent de la Russie et de la Chine se jouent aussi en mer de Chine du Sud. Et l'on sent très bien que ces deux marines sont prêtes à s'épauler et à montrer une apparence d'alliance, sachant que finalement la Chine a toujours essayé de mettre en avant, de respecter apparemment cette politique de non-interférence et de non-inclusion dans aucune alliance militaire. Mais là, on voit effectivement une opportunité qui est très intéressante, chacun s'appuyant l'un sur l'autre. Sur la Syrie, puisqu'on en a parlé, la Chine a des intérêts qu'elle très habilement qu'elle a su mettre en place. Quand vous feuilletez le Global Times, cette revue chinoise que je peux lire, elle est en anglais, vous avez souvent des comptes rendus de l'ambassadeur de Chine qui rend visite, qui est donc à Damas, qui rend visite au président, aux dignitaires du régime, et qui parle de la reconstruction, parce qu'il y a ces enjeux-là, et la Chine, elle est déjà présente avec ses ingénieurs, elle reconstruit, elle a aidé apparemment à reconstruire certaines parties du port de Tartous, et elle ne va pas s'arrêter en chemin. Donc on voit effectivement cette capacité de projection sur le long terme de la Chine dans des pions et au pourtour de certaines alliances qui peuvent même aller jusqu'à se rapprocher d'une façon très pragmatique d'Israël, ce qui a le don de surprendre énormément. Mais chacun des deux, d'ailleurs, ont aussi des intérêts à partager en termes stratégiques. Donc on voit que la Chine est prête à jouer, je dirais, sur beaucoup de partenariats en Méditerranée pour viser effectivement une présence de long terme.
Alors la Chine prête à s'appuyer sur beaucoup de partenariats. Est-ce que le rôle de la Chine économique, stratégique, peut aller jusqu'à un rôle politique, Marianne Perrandoise?
La Chine trouve sans doute le théâtre méditerranéen très très compliqué. Elle ne voudrait pas, je dirais, se retrouver otage d'une partie contre une autre. Elle a quand même des constantes. Elle a essayé de clarifier sa politique arabe au sens large en publiant un livre blanc en 2016 où effectivement le langage très convenu la pousse à mettre en avant le dialogue, la solution ou le règlement de conflits de façon pacifique, mais où elle a quand même réaffirmé son soutien au peuple palestinien, par exemple. Donc elle reste quand même dans une ligne assez classique en termes idéologiques, mais elle met également l'accent sur des coopérations qu'elle souhaite renforcer avec le Maroc, avec la Tunisie, avec l'Algérie, avec laquelle elle a une coopération d'ailleurs militaire de très long terme, et où d'ailleurs elle peut se poser en rivale des intérêts russes dans ce domaine. domaine particulier. Et n'oubliez pas les instituts Confucius qui se développent de ce côté-là de la Méditerranée, et le côté people to people diplomatie, cette stratégie d'influence dans la Chine use avec beaucoup d'habileté, et où là aussi on voit une perte de terrain des États-Unis. La plupart des étudiants finalement du Maghreb vont plus facilement désormais en Chine, où ils bénéficient de facilités financières et de bourses de long terme qui les incitent à aller se former là-bas.
Alors, vous l'avez évoqué, cette prise d'intérêt de la Chine dans les grands ports de la Méditerranée. On peut rappeler que le Pirée en Grèce a été le premier. Vous évoquiez Cherchel en Algérie, Port Saïd et Alexandrie en Égypte, Port d'Ashdod et d'Haïfa en Israël, et Terminaux à Naples, Gênes, Trieste en Italie. On peut rappeler que l'Union européenne reste devant les États-Unis le premier partenaire commercial de la Chine. Et je parle sous votre contrôle. Une relation commerciale sino-européenne qui est la première au monde et qui s'élève à 600 milliards d'euros. J'aimerais que l'on dise quelques mots sur, alors on a évoqué le Maghreb, la rive sud de la Méditerranée dans ses relations avec la Chine. J'évoquais le Pirée pour la Grèce. Il y a aussi l'Espagne, le Portugal qui ont de plus en plus de liens assez étroits avec la Chine. Marianne Perrondoz, oui, peut-être une politique différente entre
les pays du sud. Oui, en fait, on insiste assez sur les intérêts chinois. Mais la Chine, elle est attendue en Méditerranée. Ça n'est pas, un partenaire surprenant. L'Union européenne est un partenaire commercial essentiel et elle importe beaucoup en direction de la Chine. Et c'est vrai qu'il y a l'aspect maritime également, puisque pratiquement plus de 70% du commerce de l'Union européenne se fait par voie de mer. Mmh. Donc cette prise d'investissement avec les opérateurs chinois, avec cette présence dans la plupart des ports de conteneurs européens, c'est vrai que ça répond à des intérêts économiques évidents de la part de la Chine, mais de la part aussi d'un ensemble de pays qui ont eu besoin d'investissements, qui trouvent tout à fait intéressant de voir la Chine venir moderniser ses infrastructures portuaires, avec un réseau ferroviaire derrière qui est là pour appuyer ce transfert de marchandises. Enfin, ce projet de route de la soie dont on a beaucoup parlé depuis 2013, l'Italie n'a pas hésité à y adhérer. Ce qui a fait grincer des dents en début d'année, on s'en souvient. Mais la Grèce est un très bon exemple, finalement, puisque le port du Pirée est devenu bénéficiaire. Et c'est une success story dès lors que l'opérateur Cosco s'y est installé. Je rappelle qu'auparavant, il y avait quand même Singapour. Donc, on a quand même un peu l'habitude de voir des opérateurs asiatiques prendre des prises d'intérêt asiatiques ou du Golfe. Je pense aux EAU dans les ports en Méditerranée. Et donc cette success story où finalement le port du Pirée fonctionne très bien et dégage des marges bénéficiaires, intéresse un certain nombre d'autres pays, l'Italie effectivement, l'Espagne, qui eux aussi, sans hésiter, ont confié leurs intérêts à des investisseurs chinois, sachant que on se concentre sur le sud, mais on a aussi les exemples du port de Rotterdam. Ce sont des ports extrêmement importants où la Chine, là aussi, s'est installée avec une certaine efficacité. Et puis, vous n'avez pas mentionné la France, mais il faut parler aussi du port de Marseille, où la Chine aussi a réussi à intéresser des investisseurs. Donc, on voit finalement une empreinte marchande et économique qui est extrêmement séduisante et qui, pour beaucoup de pays, est une alternative à certaines règles qu'avait pu fixer l'Union européenne. Et la Grèce s'est quand même estimée un peu mise de côté et très marginalisée et durement traitée par l'Union européenne, et la Chine lui a offert une alternative tout à fait intéressante.
Alors, la Chine en Méditerranée et les États-Unis, on poursuivra dans la deuxième partie de l'émission. On vous retrouve, Marianne Perrondoz, avec l'amiral Pierre Hausseur et Pierre Razou, après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique regard sur la Méditerranée. Nous retrouvons nos invités Marianne Perrondoise, chercheure Asie du Nord à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire et directrice du programme Sécurité maritime internationale et co-auteur de Indo-Pacifique, le titre de du dernier numéro de la revue Diplomatie. L'amiral Pascal Hausseur, directeur général de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, think tank basé à Toulon et fondateur de l'Observatoire stratégique des mondes méditerranéens avec un consortium d'université, et Pierre Razou, historien spécialisé dans les conflits contemporains et les relations internationales, directeur de recherche à l'IRSEM. Pascal Hausseur et Pierre Razou qui ont dirigé la Méditerranée stratégique, laboratoire de la mondialisation. On a beaucoup parlé dans la première partie de l'émission de la Chine en Méditerranée. Marianne Perrondoise rappelait ses prises d'intérêt dans les grands ports de la Méditerranée, le Pirée en Grèce qui fut le premier, et ensuite Cherchel en Algérie, Port Saïd et Alexandrie en Égypte, port d'Ashdod et d'Haïfa en Israël, terminaux à Naples, Gênes, Trieste en Italie et puis également en Espagne et au Portugal. Tous ces ports dans lesquels la Chine est présente aujourd'hui, est-ce que c'est uniquement pour des raisons commerciales, Pascal Hausseur ?
Il n'y a pas de raison qu'au bout d'un moment, ils ne servent pas aussi de point d'appui pour une flotte qui serait permanente ou quasi permanente. Techniquement, évidemment, ça pose aucun problème. Un grand port pour des hydrocarbures à côté d'Alger peut servir de port militaire pour des frégates ou des porte-avions. Actuellement, les Chinois s'appuient sur Djibouti, qui est une très grosse base militaire, qui est leur base avancée vers l'ouest, qui ouvre à la fois vers l'océan Indien, vers le Golfe, et bien sûr la mer Rouge et la Méditerranée, mais c'est un petit peu loin de la Méditerranée. C'est suffisant aujourd'hui, compte tenu des ambitions militaires de la Chine et des capacités militaires. N'oublions pas que la Chine, elle produit une marine française tous les 4 ans. Et il lui faut encore quelques années pour pouvoir se permettre, je veux dire, avoir le luxe de déployer en permanence des frégates et des bateaux de projection en Méditerranée. Mais il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas. Et en tout cas, tout son jeu, aujourd'hui fondé sur l'économie autour du bassin méditerranéen, pourra très facilement demain basculer dans le versant militaire. J'ajoute qu'il y a deux autres enjeux, à mon avis, sur le plan stratégique à prendre en compte. Il y a les affaires de prolifération, c'est-à-dire quand vous faites du commerce et que vous organisez par exemple l'achat de matières premières et que vous pouvez très bien les gager ou les dealer avec des technologies de pointe, et pour nous c'est quand même intéressant de savoir quelles sont les technologies de pointe qui sont diffusées et qui prolifèrent dans ce bassin dont on a déjà souligné la sensibilité. Donc c'est un point très important. Et le deuxième, à plus long terme, et on l'a vu avec l'affaire de la 5G, c'est notre autonomie stratégique. C'est-à-dire qu'il est important pour les Européens, qui étaient sous une grosse influence américaine dans beaucoup de domaines, et notamment les domaines militaires, de ne pas tout doucement passer d'une tutelle américaine à une tutelle chinoise. Je suis pas sûr qu'on y gagnerait au change. Donc ça doit nous questionner sur quels sont les enjeux en termes de technologie de rupture, quels sont les points que nous devons conserver pour ne pas passer, suivre la voie de la facilité, j'allais dire, et aller acheter sur étagère des équipements qui seront bientôt chinois.
Pierre Razou.
En fait, ça pose le tout problème au niveau géopolitique mondial, de quelle place pour l'Union européenne face au duel Chine-États-Unis. Pour rester sur la Méditerranée et les zones alentours, ce que je vois, c'est que fondamentalement, aujourd'hui, l'Europe partage beaucoup plus d'intérêts avec la Chine au Moyen-Orient. Pourquoi ? Parce que et les Chinois et les Européens veulent réellement apaiser la situation au Moyen-Orient et au Levant et en Méditerranée orientale. Pourquoi ? Pas pour les mêmes raisons. Pour les Européens, c'est pour stabiliser leur environnement proche, éviter les crises migratoires, etc. Éviter évidemment un regain de djihadisme, de terrorisme, gagner des marchés, etc. Mais pour les Chinois, c'est fondamentalement parce que le Levant et le Moyen-Orient, c'est au cœur de leur stratégie d'expansion mondiale sur les fameuses routes de la soie. Les fameuses routes de la soie, elles s'arrêtent pas à la mer Rouge ou à l'Asie centrale. Ça, c'est ce que les Chinois nous vendent pour pas nous faire trop peur. Mais sur le très long terme, c'est une vision globale. Donc le paradoxe, c'est que les Chinois veulent stabiliser le Moyen-Orient, là où les Russes et les Américains préfèrent garder un peu de tension pour justifier leur rôle de protecteur et de pourvoyeur d'armement. Donc nous, Européens, notre intérêt, c'est plutôt au Moyen-Orient et en Méditerranée de nous allier avec les Chinois sur le long terme, parce que finalement, on a tous intérêt à stabiliser et à apaiser. Le problème, c'est que si on fait ça, évidemment, on donne un avantage stratégique majeur aux Chinois, par rapport notamment aux Américains. Donc est-ce que c'est réellement notre intérêt ? Ça, je ne sais pas.
Avantage stratégique chinois, Marianne Perrondoise, on parlera aussi du Japon.
Oui, volontiers, mais pour terminer sur ce point, sans terminer vraiment, à vrai dire, tout partenariat avec la Chine comporte un danger de déséquilibre, que l'on soit l'Union européenne ou que l'on soit un pays, que ce soit la Grèce ou le Sri Lanka, pour citer un exemple qui a beaucoup été commenté, parce que forcément, on est écrasé par la puissance économique, diplomatique et militaire chinoise. L'Union européenne, elle en est bien consciente, elle appelle et elle souhaite encadrer le partenariat avec la Chine, mais elle souhaite aussi se protéger. Alors, indépendamment de l'usage dual des ports, donc à la fois civil et militaire qui peut être fait, ça c'est une question, il y a effectivement la protection de nos industries et de notre savoir-faire sensible. Et au terme d'un débat assez houleux, parce que le problème des relations que la Chine peut établir dans l'Union européenne, c'est celui qu'elle a déjà établi en Asie, c'est qu'il y a ceux qui sont très sensibles à l'influence chinoise et qui aurait tendance à défendre les intérêts chinois, et on voit des lignes de fracture au sein de l'Union européenne entre un certain nombre de pays qui se sentent proches et qui se sentent enclins à ne pas trop vouloir se prononcer sur des questions de droits de l'homme, par exemple, et une ligne un petit peu dure que peut-être la France et l'Allemagne jusqu'à présent ont incarné, et en tout cas qui a abouti cette année à voir l'Union européenne prendre des dispositions avec une loi filtrant les investissements chinois et pouvant donner l'opportunité à des pays ciblés de remettre en cause certains accords commerciaux ou certains accords de partenariat avec des industries qui seraient effectivement sensibles pour les intérêts nationaux. Et il était temps que l'Union européenne mette en place des processus de protection. Il n'en demeure pas moins que le piège de la dette, qui est celui dans lequel est tombé donc le Sri Lanka, pour dire un mot de cette affaire, est peut-être un piège qui attend certains partenaires chinois. Évidemment, on pense à la Grèce, et on pense à l'Italie, où finalement certains pays ne sont pas en mesure de rembourser les investissements très lourds consentis par la Chine et sont obligés d'accorder des concessions, c'est-à-dire un certain libre usage des infrastructures portuaires au seul bénéfice des compagnies chinoises. Et donc on voit derrière ce qui se profile un marché qui est captif pour les produits chinois et un marché qui est captif pour les intérêts stratégiques et politiques chinois. Et ça, effectivement, c'est quand même un gros problème. Il faut effectivement que l'Union européenne reste très, très vigilante sur ce point.
Peut-être quelques mots sur le Japon, qui a fait partie des dialogues méditerranéens en novembre 2018. Alors, contrairement à la Chine, le Japon n'a pas cet ancrage portuaire, me semble-t-il, ou en tout cas, peut-être suis-je mal renseignée, mais je voudrais un commentaire de votre part, Marianne Perrondois.
Le Japon est une puissance diplomatique très, très active en direction des pays du Maghreb, où, pour les mêmes raisons que la Chine, elle a quand même des intérêts énergétiques. Donc, le Japon est, par exemple, très présent en Algérie et depuis de longues années. Et là aussi, il y a des industries japonaises qui ont des parts dans certaines compagnies pétrolières algériennes. Et donc, c'est vrai que le Japon est inquiet de cette, je dirais, intrusion chinoise qui pourrait nuire à ses intérêts les plus précis dans le domaine énergétique. Donc, elle a cette politique d'influence qui l'a fait s'intéresser aux principaux forums et plateformes diplomatiques ou plateformes de dialogue et d'échange où elle entend être présente pour essayer de faire pièce à cette influence chinoise qui peut être bien dérangeante pour ses intérêts.
Dans l'émission d'hier, nous avons beaucoup parlé de la Russie, de la Turquie. Pierre Azou, je me tourne vers vous. Et on n'a pas parlé de l'Iran. Alors, la Turquie et l'Iran, finalement, ce sont un peu des archétypes des grands États émergents qui entendent compter en toute indépendance sur la scène internationale, en commençant par établir leur influence en Méditerranée. On a compris que l'influence turque, elle était importante. Qu'est-ce que l'on peut dire sur l'Iran, Pierre Razou?
L'Iran, globalement, depuis la période de la Perse impériale, il y a 2500 ans, a toujours le vieux rêve de revenir en Méditerranée. Alors, à l'époque, c'était pour des raisons de prestige, pour des raisons de contrôle. Aujourd'hui, c'est tout simplement parce que l'Iran a vitalement besoin d'un corridor terrestre reliant l'Iran à la Méditerranée. Un, pour évidemment faire le lien avec les populations chiites qui sont situés en Irak, en Syrie, mais surtout au Liban. bien entendu pour faire pression sur Israël dans le cadre d'une sorte de dissuasion mutuelle aujourd'hui qu'on voit se mettre en place entre l'Iran d'un côté, Israël de l'autre, chacun essayant d'effrayer l'autre en lui disant voilà, ça c'est ma zone d'intérêt, vous ne venez pas jouer chez moi, ou on peut discuter sur où passe la ligne rouge, mais donc c'est ce qui est en train de se jouer. Mais surtout, les Iraniens, comme d'ailleurs au passage les Koweïtiens, les Irakiens et les Syriens, ont besoin d'exporter leur gaz et leur pétrole également en direction de l'Occident et de la Méditerranée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'essentiel du pétrole et du gaz qui est extrait et qui est exporté de la zone Moyen-Orient part en Asie, notamment en Chine, au Japon, en Inde. Et l'Iran, qui est complètement enserré, enclavé et isolé sur le plan international, sur le plan des sanctions américaines, etc., a désespérément besoin de se trouver une nouvelle clientèle énergétique, notamment en Méditerranée, en Europe du Sud. Et donc, le but, c'est de faire passer des pipelines oléoducs ou gazoducs à travers l'Irak, la Syrie. Si ça passe pas en Syrie, parce que justement les Russes sont sur un jeu opposé à l'Iran, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que les Russes et les Iraniens coopèrent tactiquement en Syrie, on va dire pour des raisons stratégiques ou d'anti-occidentalisme, etc. Mais fondamentalement, les Russes et les Iraniens sont totalement rivaux sur le plan énergétique. Mmh. Et donc les Iraniens ont vraiment besoin d'accéder à la Méditerranée, par exemple, pour y compris au port de Tartous et l'attaquer, ou demain peut-être de Beyrouth ou de Tripoli au Liban, pour exporter leur gaz et leur pétrole. Et ça, les gens ne le réalisent pas assez.
Marien Parandois, très rapidement, quelques mots sur la relation entre l'Iran et la Chine en Méditerranée.
Effectivement, la Chine est très intéressée par les ressources iraniennes, mais ça, je dirais, c'est une constante de la politique chinoise d'avoir ce genre de relation. Mais il est clair que dans la dénonciation, de l'accord des puissances européennes avec l'Iran, la Chine s'est quand même montrée très très sévère, et plutôt dans le soutien de la recherche d'un accord qui jugule les capacités d'enrichissement de l'Iran, mais enfin c'est largement opposé à la politique américaine.
Pierre Razou, très rapidement.
Alors juste une anecdote pour illustrer ce point précis. L'un des grands think tanks proches du pouvoir iranien a fait une déclaration avant-hier pour dire « Je crois que nous, Iraniens, nous sommes trompés en confiant le port de Chabahar en Iran aux Indiens ». C'était la rivalité entre l'axe, si vous voulez, Inde, Iran, Russie, par rapport à l'axe Chine, évidemment, route de la soie, Chine, Pakistan et route de la soie. Ce stratège iranien, donc qui est extrêmement proche du pouvoir, vient de dire, en fait, nous aurions dû, sur Chabahar, nous entendre avec les Chinois. Je crois que ça résume complètement votre problématique.
Alors, la question énergétique, Pascal Hausser, on l'a évoqué, les tensions autour de Chypre, tensions avec la Turquie en particulier, dont les forages gaziers ne plaisent pas à tout le monde. Voilà, alors on peut rappeler que Chypre est une île qui est divisée en deux, avec rattachement à la Grèce d'un côté et puis la Turquie depuis 1974 pour un autre côté. Ça, c'est un point de friction qui pourrait évoluer, pas forcément dans le bon sens, en Méditerranée.
Oui, c'est un vrai point de friction, et c'est un peu dommage, parce que on pourrait imaginer qu'une manne gazière dans un endroit où les gens ont des problèmes économiques et sociaux importants puisse au contraire favoriser le doux commerce de Montesquieu, c'est-à-dire plus d'argent, plus de paix et plus de coopération. D'ailleurs, cette option, elle peut être encore sur la table, mais elle n'est pas, en tout cas, c'est pas celle qui est sur la table aujourd'hui. Et elle rejoint les rivalités que Pierre Razou évoquait, d'abord, et ça montre d'abord ces rivalités clés qui permettent de comprendre beaucoup de choses au Proche-Orient, c'est l'exportation du gaz. L'Europe est un énorme consommateur de gaz. La plupart de son gaz vient de Russie. Le gaz iranien, le gaz du Golfe, pour l'instant, n'a pas un accès direct et facile à la consommation européenne. Pouvoir mettre des pipelines à travers l'Irak, la Syrie ou le Liban et pour atterrir en Méditerranée, ça changerait totalement la donne. Évidemment, ça ne ferait pas très plaisir à la Russie. Pierre l'a très bien évoqué. Aujourd'hui, les pays de la Méditerranée orientale sont tous des consommateurs nets de gaz. Et avoir des ressources gazières, pour eux, ce serait un changement complet sur le plan économique et donc social et probablement politique. Il se trouve que la technologie permet maintenant de forer à très grande profondeur. Et la Méditerranée est très profonde. Et on a découvert des gisements qui, pour l'instant, sont importants. Et on peut penser qu'on en aura d'autres qui laissent penser que la Méditerranée pourrait être productrice de gaz de façon très importante. Et pour l'Europe, c'est une option qui lui permettrait de diversifier et d'être moins dépendante du gaz russe. Donc tout ça a du sens. Alors après, on rentre dans la répartition des ressources de la mer et le droit de la mer et les cultures et la géopolitique traditionnelle qui interfère avec cette problématique. Aujourd'hui, on a vu des gisements au large d'Israël, et Israël commence à les exploiter, et Israël a fait un partenariat avec l'Égypte qui permettra ce gaz d'être utilisé en Égypte à des fins internes et éventuellement liquéfié et transporté par bateau vers l'Europe, ce qui transformerait l'Égypte en hub gazier pour l'Europe, ce qui serait un rêve pour ce pays en termes de coopération. Donc Israël a déjà fait ce lien. Chypre, qui a énormément de ressources dans ces zones économiques exclusives, aimerait bien pouvoir prospecter, récupérer ce gaz et se rattacher au même hub égyptien. La Grèce soutient Chypre parce qu'elle est très intéressée pour pouvoir récupérer, être le hub de réception, j'allais dire, de ce gaz, soit en passant par l'Égypte, soit à travers un pipeline qui serait assez cher et assez compliqué, mais qui est soutenu par l'Union européenne, qui irait directement d'ailleurs de Chypre à l'Europe en passant par la Grèce et l'Italie. Bon, évidemment, là, il y a un pays qui n'est pas du tout d'accord, c'est la Turquie, à des fins géopolitiques, parce que la Turquie n'a jamais reconnu l'indépendance de Chypre. La Turquie ne reconnaît donc pas la zone économique exclusive et utilise cette affaire comme un levier vis-à-vis de Chypre, vis-à-vis de ses partenaires, enfin, c'est des acteurs de la Méditerranée, vis-à-vis de l'Europe, en disant « vous voulez ce gaz, il va falloir payer d'une certaine façon ». Il y a aussi un intérêt économique, parce que la Turquie a des problèmes économiques, et pour elle aussi, ça serait une très bonne nouvelle de pouvoir exploiter ce gaz. Donc là, il y a peut-être d'ailleurs une porte d'ouverture vers des négociations possibles. Si ce gaz arrivait en Turquie, ou si une partie de ce gaz pouvait être exploité par les Turcs, au profit des Turcs, ils y retrouveraient peut-être un intérêt. Là-dessus, les Russes, pour qui c'est pas une très bonne nouvelle, puisque avoir du gaz de Méditerranée orientale qui concurrence leur gaz, c'est pas l'objectif recherché, mais ont aussi des liens, alors à la fois avec les Turcs, bien sûr, on en a déjà parlé, mais également avec les Chypriotes et les communautés orthodoxes chypriotes et grecques. Donc il y a un jeu très complexe. Toujours est-il qu'aujourd'hui, les compagnies françaises, italiennes, qui ont été mandatées par le gouvernement chypriote pour prospecter et forer du gaz dans la zone économique chypriote, ont été interdits de facto, manu militari, par la marine turque de procéder à leur prospection. Inversement, depuis quelques semaines, les Turcs ont décidé de façon unilatérale de faire des prospections dans une zone contestée, hein, que eux revendiquent comme la zone économique exclusive de Chypre du Nord, qui est un pays qui n'existe pas et qui n'est reconnu que par les Turcs, mais qui est dans la zone économique de Chypre. Et ce forage qui a lieu, donc défie évidemment le droit international et est fait sous protection de la marine turque. Donc on est vraiment dans une illustration parfaite de ce qu'on a déjà évoqué, un rapport de force, la fin d'un multilatéralisme et des enjeux qui s'imbriquent entre les enjeux économiques, les enjeux politiques, géopolitiques, politique intérieure. Et donc là, ça nécessite véritablement toute notre attention.
En tout cas, la Méditerranée, le bassin méditerranéen, est une zone extraordinairement complexe. Je crois que à travers ces deux émissions, celle d'hier et d'aujourd'hui, on est parvenu à développer l'éventail et comprendre plus largement tous les enjeux stratégiques, étant entendu qu'on n'a pas parlé de beaucoup de choses, en particulier ni de l'environnement, ni de la question des migrations, mais il était davantage question de stratégie. Je crois qu'on a pu éclairer nos auditeurs sur toutes ces questions. Merci à chacun. Marianne Perrondoise, je rappelle que vous êtes chercheure Asie du Nord à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire et directrice de programme Sécurité Maritime Internationale. Et je cite la parution du dernier numéro de la revue de Diplomatie à laquelle vous avez contribué sous le titre Indo-Pacifique. Merci aussi à l'amiral Pascal Hausseur, directeur général de la Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques, think tank basé à Toulon et fondateur de l'Observatoire stratégique des mondes méditerranéens avec un consortium d'universités, et Pierre Razou, historien spécialisé dans les conflits contemporains et les relations internationales, directeur de recherche à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Et je rappelle que vous avez dirigé, Pascal Hausseur et Pierre Razou, cet ouvrage intitulé « La Méditerranée stratégique, laboratoire de la mondialisation ». Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Laurie Plisson et Véronique Durand. À samedi prochain.
Priorité santé. Caroline.